Bonsoir, il est 17h30 en temps universel. Bienvenue dans cette édition. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres et veuillez nous excuser par avance des problèmes techniques que nous avons dus au coronavirus par manque de personnel. 19 morts et plusieurs blessés au Nigeria dans l'explosion accidentelle survenue dimanche à Lagos. Les gouvernements africains prennent des mesures drastiques pour contrer la propagation du coronavirus. Nouvel épicentre du Covid-19 après la Chine, l'Europe prépare des mesures concertées. L'Espagne va fermer ses frontières terrestres à minuit. Lors d'un débat télévisé hier soir, Joe Biden et Bernie Sanders ont saisi l'opportunité pour proposer des plans de lutte contre le coronavirus. Et juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord donc les infos. Alors au Nigeria, au moins 19 personnes ont été tuées et des dizaines ont été blessées dans l'explosion accidentelle survenue hier matin à Lagos. Plusieurs bâtiments ont été détruits. Les services de secours avaient fait état dimanche d'au moins 15 morts et de nombreux blessés, mais le bilan devrait être beaucoup plus lourd. Des victimes se trouvent encore sous les gravats. L'explosion survenue aux abords d'un oléoduc dans le quartier résidentiel d'Abouléado a détruit une cinquantaine de maisons, une église et des magasins. Un pensionnat pour jeunes filles où étaient scolarisés plus de 200 élèves a été soufflé par la déflagration ressentie à plus de 15 km à la ronde. Des équipes de secours continuent à déblayer les décombres, a expliqué le gouvernement de l'État. Des efforts sont menés pour déterminer les causes de l'explosion qui a fait de nombreux sans-abri, a-t-il ajouté. Selon la compagnie pétrolière publique NNPC, le sinistre a été causé par un camion qui a heurté des bouteilles de gaz empilées dans une usine de traitement de gaz. Les explosions de camions, citernes et d'oléoducs sont fréquentes au Nigeria, premier producteur de pétrole du continent. L'Assemblée nationale togolaise a levé lundi l'immunité parlementaire de l'opposant Agbeyome Kodjo sur demande du procureur général qui souhaite le poursuivre pour atteinte à la sécurité de l'État. 80 députés ont voté pour par scrutin secret, 2 contre et 8 se sont abstenus. Monsieur Kodjo n'était pas présent dans l'hémicycle. Au cours de la même séance, l'Assemblée nationale a autorisé le procureur à entamer des poursuites pénales contre l'opposant togolais qui, en qualité d'ancien président de l'Assemblée, ne pouvait être poursuivi au pénal sans l'aval des députés. Le gouvernement suédois envisage d'envoyer jusqu'à 150 soldats au Mali afin de soutenir l'opération militaire française Takuba qui vise à réunir des forces spéciales de différents pays pour accompagner les forces locales au combat. Le gouvernement a décidé de soumettre un projet de loi au Parlement pour une participation suédoise au futur groupement de forces spéciales européennes initié par Paris, a annoncé le ministère des Affaires étrangères. Une mission de 4 chefs d'État ouest-africains se rendra demain mardi dans la capitale de la Guinée, pays en pleine crise politique, quelques jours avant la tenue prévue d'un référendum contesté sur une nouvelle constitution. La délégation de cette visite à Conakry sera composée des présidents du Ghana, de Côte d'Ivoire, du Nigeria et du Niger. La mission est mandatée par la CDAO qui avait annulé une mission fin février. En République démocratique du Congo, le pays donc a expulsé ce lundi plus de 1400 Burundais d'après les autorités accusées de séjour illégal dans la région de Goma, dans l'est du pays. En fin d'après-midi, ils ont été conduits vers le port de Goma où ils ont été embarqués à bord de 2 bateaux par la police et l'armée. Ils devraient être rapatriés au Burundi via le lac Kivu et la province voisine du Sud Kivu. Ces immigrés agissent sous le label de la secte mystico-religieuse Ezebia, dissidente de l'église catholique burundaise. Selon le communiqué de la présidence congolaise, et Michel Joseph poursuit avec moi ce parcours des nouvelles aujourd'hui.
Oui, en effet, Nathalie, un casque bleu burundais a été tué dimanche à Grimari, dans le centre de la République centrafricaine, lors d'une attaque d'hommes armés, a annoncé le porte-parole de la MINUSCA, alors que des éléments armés anti-Balaka avaient ouvert le feu sur les domiciles du sous-préfet et du maître de Grimari. Dans la préfecture de Waka, les casques bleus sont immédiatement intervenus pour mettre fin à l'attaque, a indiqué le porte-parole Vladimir Monteiro.
En Égypte, 6 djihadistes ont été tués par des policiers lors d'échanges de tirs dans le nord du Sinaï. Dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur indique avoir mené un assaut sur une cache de djihadistes à Bir el-Abed, à l'ouest du chef-lieu de la province du nord Sinaï, Al-Arish. Les combattants se cachaient dans une maison en chantier et 6 membres du groupe sont morts lors des échanges de tirs, rapporte le ministère, indiquant que des armes automatiques et des explosifs ont été retrouvés.
Les gouvernements africains prennent des mesures drastiques pour contrer la propagation du nouveau coronavirus. La maladie touche désormais toutes les régions du continent. Le point avec Abdourahmane Dia.
Les autorités marocaines ont décrété la fermeture jusqu'à nouvel ordre des cafés, restaurants, salles de théâtre et de cinéma. Les mesures ne concernent pas les souks, les commerces et les locaux de vente de produits et matières de première nécessité, ainsi que les restaurants qui viennent à domicile, qui livrent plutôt à domicile. Le Maroc, qui compte 29 cas confirmés, a aussi suspendu depuis hier tous les vols internationaux jusqu'à nouvel ordre, mais des avions spéciaux ont été autorisés pour rapatrier les touristes européens bloqués. L'Algérie a décidé de suspendre à partir de jeudi toutes ses liaisons avec l'ensemble des pays, a annoncé ce lundi son premier ministre Abdelaziz Djerad. Alger avait annoncé dimanche la suspension temporaire à partir de mardi de toutes les liaisons aériennes et maritimes avec la France, où est implantée une nombreuse communauté algérienne. 54 cas sont confirmés en Algérie et au Sénégal. Le président Macky Sall a annoncé la suspension de tous les rassemblements et la fermeture des écoles, et plusieurs événements religieux prévus ce mois ont été annulés ou reportés.
Et Abdourahmane, la pandémie du Covid-19 continue de progresser sur la planète, où près de 170 infections et plus de 6600 morts ont été enregistrées dans 142 pays. Nouvel épicentre après la Chine, l'Europe prépare des mesures concertées. Ici aux États-Unis, le nombre de cas augmente également et la bourse accuse le coup. On écoute Michel Joseph.
Oui, l'explosion du nombre de malades en Europe poussent les États à confiner leur population et fermer leurs frontières. Des restrictions qui s'ajoutent à une cascade de mesures prises dans les pays différents. Écoles et universités, restaurants, bars, discothèques, cinémas sont désormais fermés un peu partout. Les principales compagnies aériennes européennes ont annoncé une réduction drastique de leur offre, pouvant aller jusqu'à l'immobilisation de la quasi-totalité des avions. Un sommet extraordinaire du G7 est prévu ce lundi par visioconférence pour coordonner la lutte contre le coronavirus dans les domaines sanitaires, économiques, financiers et de la recherche sur un vaccin ainsi que des traitements. L'Italie a adopté aujourd'hui une enveloppe de 25 milliards d'euros pour soutenir les ménages et les entreprises. Les marchés boursiers ont vécu un lundi noir, tétanisé par les craintes d'une récession mondiale. Seule la Chine semble avoir enrayé la propagation du virus avec seulement 16 nouveaux cas lundi, dont 12 importés de l'étranger. L'Iran a annoncé son bilan journalier le plus lourd avec 129 décès. En Corée du Sud, un nouveau foyer de contamination lié à une église est apparu, avec près de 35 nouveaux cas, Nathalie.
Et par ailleurs, l'OMS a qualifié la pandémie de crise sanitaire mondiale majeure de notre époque. Bruxelles a proposé d'interdire les voyages non essentiels vers l'Union européenne. La Malaisie va interdire l'entrée des étrangers et les voyages de ses citoyens hors du pays. L'État américain du New Jersey impose un couvre-feu sur tous les commerces et déplacements non essentiels entre 20h et 5h. Le président allemand a appelé la population à rester à la maison. La Suisse passe en état d'urgence et interdit tout rassemblement. L'Ukraine ferme ses espaces publics et arrête les transports. Le groupe automobile français PSA a annoncé l'arrêt de toutes ses usines en Europe au cours de la semaine et les baigneurs Rio au Brésil sont priés de quitter les plages. Entre autres, nombreuses nouvelles mesures qui sont prises dans le monde. Les candidats démocrates à la présidentielle américaine Joe Biden et Bernie Sanders se sont affrontés hier soir lors d'un débat télévisé. Ils ont saisi l'opportunité pour proposer des plans de lutte contre la pandémie de coronavirus. Eric Manirakiza nous en dit plus.
Au cours du débat démocrate hier soir, Joe Biden et Bernie Sanders se sont vivement reprochés certains de leurs choix politiques passés, tout en dénonçant d'une même voix ce qu'ils ont présenté comme une mauvaise gestion du coronavirus par le président Donald Trump. Grand favori pour l'investiture démocrate, le candidat modéré Joe Biden s'est engagé pour la première fois à choisir une femme en tant que vice-présidente lors de l'élection présidentielle de novembre 2020 face au républicain Donald Trump. Son rival nettement plus marqué à gauche a lui aussi assuré qu'il choisirait également une colistière. Dans le contexte de la pandémie de coronavirus, Sanders a mis en avant ses propositions en matière d'accès universel aux soins de santé. La crise sanitaire a ouvert et bouclé le débat entre les deux septuagénaires, désormais seuls en course pour décrocher l'investiture démocrate. Et demain mardi, les électeurs démocrates de l'Arizona, de la Floride, de l'Illinois et de l'Ohio se rendront aux urnes pour choisir leur candidat.
Dans une conversation téléphonique dimanche avec le premier ministre irakien Adel Abdelmahdi, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a prévenu que les États-Unis riposteraient si nécessaire en cas de nouvelles attaques contre des Américains après une série de tirs de roquettes meurtriers contre une base militaire en Irak.
La Cour constitutionnelle russe a donné son accord à la vaste réforme voulue par le président Vladimir Poutine, qui lui donnera notamment le droit d'effectuer deux mandats supplémentaires après la fin de l'actuel en 2024. Dans son arrêt, la juridiction, elle estime que le projet de réforme est bien conforme à la législation, malgré les critiques d'opposants au Kremlin, qui accuse M. Poutine de vouloir devenir président à vie. Cette réforme doit encore être validée par un vote populaire prévu le 22 avril.
Et le parquet fédéral de Karlsruhe en Allemagne a annoncé l'inculpation pour crime contre l'humanité de la veuve d'un célèbre ex-rappeur allemand devenu djihadiste. La germano-tunisienne qui s'était rendue en 2015 en Syrie avec ses trois enfants pour rejoindre le groupe État islamique est inculpée de crime contre l'humanité et participation à une organisation terroriste étrangère, a indiqué le parquet. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, l'actualité économique en Afrique, on en parle dans La Minute Éco qui vous est présentée par Nani Talani.
Les autorités marocaines ont annoncé lundi la fermeture jusqu'à nouvel ordre des cafés, restaurants, salles de théâtre et de cinéma. Ces mesures drastiques sont censées aider à contenir la propagation du nouveau coronavirus. Elles concernent aussi les salles de sport, salles de jeux et terrains de proximité, précise le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. Toutefois, ces dispositions ne concernent pas les souks, les commerces et les locaux de vente de produits et matières de première nécessité, ainsi que les restaurants qui livrent à domicile. Le taux d'inflation annuel a encore atteint le chiffre vertigineux de 500% en février au Zimbabwe. Le taux d'inflation au rythme annuel tel que mesuré par l'index des prix à la consommation s'élève à 540,16%, a annoncé l'Agence nationale des statistiques sur son compte Twitter. Le gouvernement zimbabwéen a annoncé la semaine dernière l'entrée en vigueur d'un nouveau système de fixation des parités monétaires afin de stabiliser le taux de change et par conséquent réduire l'inflation, selon le ministre des Finances, Ntuli Nkoubé. Pour terminer, l'économie soudanaise devrait se contracter de 1,2% cette année contre 2,5% en 2019, a déclaré le Fonds monétaire international dans un rapport. une inflation élevée de 60%, une dépréciation continue du taux de change et des pénuries généralisées continueront d'aggraver les tensions sociales, a ajouté le FMI. Jonas Horner, analyste soudanais à l'International Crisis Group, se dit préoccupé par l'intense pression financière sur les ménages, les subventions de l'État qui drainent les coffres publics et la flambée de l'inflation.
Merci beaucoup Nanit Talani pour la Minute Écho et veuillez nous excuser pour ces problèmes techniques dus à la situation avec le coronavirus par manque de personnel. Alors on passe au sport avec Bagassi Koura. Bagassi, 5 pays africains qualifiés pour le dernier tour des éliminatoires du Mondial féminin.
Oui, bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Il s'agit du Cameroun, du Ghana, du Nigeria, de l'Afrique du Sud et de l'Ouganda qui ont tous arraché leur billet pour le dernier tour du mondial féminin des moins de 17 ans en Inde 2020. À Yaoundé, les Lions se sont montrés trop fortes face à Sao Tome et Principe, battus 6-0 au retour, 10-0 sur l'ensemble des deux rencontres. Pendant ce temps, à Accra, les Black Maidens du Ghana ont atomisé leurs homologues libériennes 8-0. Le Nigeria, lui, a poursuivi sa campagne florissante en battant la Guinée 5-1 à domicile après sa large victoire 6-1 au match aller à Conakry. À Johannesburg, battu 2-0 au match aller, l'Afrique du Sud a pris le dessus sur la Zambie 3-0. Ça fait beaucoup de buts, Nathalie.
En effet. Et Bagassi, donc la Confédération africaine de volleyball a reporté toutes ses compétitions à une date ultérieure.
Oui, il s'agit des coupes des clubs champions hommes et dames devant se tenir au Caire en avril. Les championnats d'Afrique U19 hommes et dames de beach volley à Maputo et à Tunis en mai, et puis la suite de la deuxième phase des éliminatoires des Jeux Olympiques de beach volley. La Fédération internationale de handball a aussi décidé de reporter au mois de juin ses tournois qualificatifs aux JO. Le basketball n'est pas resté indifférent face au coronavirus. La FIBA a ainsi décidé de suspendre toutes ses compétitions internationales après que la NBA a suspendu son championnat et la Ligue africaine de basketball.
Et le Maroc a également arrêté les matchs de football sur son territoire jusqu'à nouvel ordre.
Oui, l'annonce a été faite sur Twitter par la Fédération royale marocaine de football. Même décision au Sénégal où les autorités ont interdit toutes les manifestations publiques pour 30 jours. En Égypte, la fédération a annoncé la suspension de tous les championnats pour 2 semaines.
Et tous ces reports de compétition s'enchaînent sur le continent, mais certains pays ont joué le week-end écoulé.
Oui, c'est le cas de la RDC, dont le championnat est suspendu pour une durée de 30 jours à partir d'aujourd'hui. Mais avant cette décision hier, 3 matchs ont eu lieu entre l'AS Vita Club et donc la Renaissance du Congo, un derby donc où l'AS Vita Club l'a emporté 2-0. L'équipe entraînée par Florent Ibenge est classée 2e avec 48 points. L'AS Maniema, l'union vainqueur de Lubumbashi Sport, est classée 3e. Le TP Mazembe est leader du classement avec 53 points.
Et pour terminer, en Tunisie, en Côte d'Ivoire, on jouait la Coupe nationale.
Oui, 16e de finale en Côte d'Ivoire et l'Africa Sport d'Abidjan, le FC San Pedro et l'AFA de Djekanou ont validé leur billet pour les 8e de finale. En revanche, la SEC Mimosa, les jaunes et noirs, prend la porte puisque battu 2-1 par le RC d'Abidjan. Fin de parcours également pour les militaires de la SOA éliminés au tir au but par Azi Dabengourou. 8e de finale en Tunisie et qualification de l'Espérance de Tunis où dépend de l'avenir sportif de la Marsa 2-0. Ça passe aussi pour le club sportif sfaxien, vainqueur 2-0 de l'AS Djerba. Par contre, le club africain, lui, s'est fait éliminer par l'US Monastir.
Un grand merci Bagassi pour cette page sportive. Et on revient donc vous rappeler, hein, c'est les grands titres de l'actualité. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique. Encore une fois, veuillez nous excuser de l'absence de musique, de jingle, etc. Mais cela est dû au manque de personnel à cause du coronavirus. Donc bienvenue dans cette édition du 16 mars 2020. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres.
19 morts et plusieurs blessés au Nigeria dans l'explosion accidentelle survenue dimanche à Lagos. Les gouvernements africains prennent des mesures drastiques pour contrer la propagation du coronavirus. Nouvel épicentre du Covid-19 après la Chine, l'Europe prépare des mesures concertées. L'Espagne va fermer ses frontières terrestres à minuit. Lors d'un débat télévisé hier soir, Joe Biden et Bernie Sanders ont saisi l'opportunité pour proposer des plans de lutte contre le coronavirus. Et il y a aussi l'actualité économique et les sports.
Bien sûr, Michel. Et donc, au Nigeria, au moins 19 personnes ont été tuées et des dizaines ont été blessées dans l'explosion accidentelle survenue hier matin à Lagos. Plusieurs bâtiments ont été détruits.
Oui, les services de secours avaient fait état dimanche d'au moins 15 morts et de nombreux blessés, mais le bilan devrait être beaucoup plus lourd. Des victimes se trouvant encore sous les gravats. L'explosion survenue aux abords d'un oléoduc dans le quartier résidentiel d'Aboulé Ado a détruit une cinquantaine de maisons, une église et des magasins. Un pensionnat pour jeunes filles où étaient scolarisés plus de 200 élèves a été soufflé par la déflagration, ressenti à plus de 15 km à la ronde. Les équipes de secours continuent à déblayer les décombres, a expliqué le gouvernement de l'État. Des efforts sont menés pour déterminer les causes de l'explosion qui a fait de nombreux sans-abri, a-t-il ajouté. Selon la compagnie pétrolière publique NNPC, Nigerian National Petroleum Corporation, le sinistre a été causé par un camion qui a heurté des bouteilles de gaz empilées dans une usine de traitement de gaz. Les explosions de camions citernes et d'oléoducs sont fréquentes au Nigeria, premier producteur de pétrole du continent, avec près de 2 millions de barils par jour.
L'Assemblée nationale togolaise a levé lundi l'immunité parlementaire de l'opposant Agbeyome Kodjo sur demande du procureur général qui souhaite le poursuivre pour atteinte à la sécurité de l'État. 80 députés ont voté pour par scrutin secret, 2 contre et 8 se sont abstenus. Monsieur Kodjo n'était pas présent dans l'hémicycle. Au cours de la même séance, l'Assemblée nationale a autorisé le procureur à entamer des poursuites pénale contre l'opposant togolais qui, en qualité d'ancien président de l'Assemblée, ne pouvait être poursuivi au pénal sans l'aval des députés.
Le gouvernement suédois envisage d'envoyer jusqu'à 150.
Écoutez Le Monde aujourd'hui. Merci beaucoup à Michel, Joseph, Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, on passe au dossier du jour. Au Sénégal, où 26 cas de Covid-19 ont été confirmés, le président Macky Sall a annoncé des mesures préventives pour limiter la propagation du virus. La plus attendue était l'interdiction pendant un mois des rassemblements et manifestations. Les célébrations religieuses qui devaient accueillir des centaines de milliers de personnes doivent être ainsi annulées. Cette décision rassure globalement les populations, même si certains émettent des réserves. Voici un reportage de notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Au centre des attentions, depuis que le coronavirus a atteint la grande cité religieuse de Touba, les chefs religieux de cette ville et du Sénégal ont tour à tour décidé de reporter ou d'annuler les célébrations. Une décision prise pour se conformer aux directives étatiques, mais pour Abel Sagna, le fond du problème demeure le mode de vie des Sénégalais.
Notre culture favorise la vitesse de propagation de la maladie. Regardons comment nous vivons. Nous ne saluons pas la main, nous mangeons ensemble, nous buvons ensemble le thé et nous, on n'est pas quasiment tout le temps ensemble. Nous sommes les plus sociables, je peux dire, de l'humanité. C'est très favorable à la propagation de la maladie.
Même son de cloche du côté de Yaya Junior Djiba qui estime que l'État doit aller au-delà de la sensibilisation par les médias. Pour ce jeune originaire du Sud, les autorités doivent prendre des mesures pratiques pour que la population intègre certaines précautions. Yaya suggère également que le contrôle ne se limite pas aux frontières, mais qu'il touche aussi les voyages à l'intérieur du pays.
Ah, tout récemment, je suis parti en Casamance. J'ai vu qu'il n'y avait pas de contrôle. À l'aller comme au retour, il n'y avait pas de contrôle. Ah, peut-être que ce sont les gardiens qui se sont un peu organisés et nous demandaient de nous laver les mains exclus, mais du côté du Sénégal, il n'y a rien. Alors qu'il y avait le coronavirus au Sénégal.
Les avis de ces citoyens sont parfaitement en accord avec l'analyse du docteur Baba Moudou Ndiaye qui affirme que l'État doit anticiper et accentuer les efforts de sensibilisation envers la population afin de limiter les risques.
Mais ce sont des décisions qu'il fallait prendre depuis. Ensuite, voilà, vulgariser l'information pour que la population sache les mesures préventives. Pas seulement se laver les mains, même les portables, les télécommandes et tout. Voilà. Donc trop en faire, même c'est mieux que de ne pas en faire.
Pour prendre les devants face à certaines situations, l'État a d'ailleurs décidé de partir en croisade contre les fake news. Le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, a annoncé des poursuites judiciaires contre ceux qui sapent l'effort de lutte nationale contre le coronavirus.
Depuis quelques jours, des vidéos circulant dans les réseaux sociaux remettent en cause la présence de cas de COVID-19 au Sénégal. Je regrette également qu'en cette période où la nation a besoin de la conjonction des forces de ses fils et de ses filles, certains individus aient l'outrecuidance de diffuser des informations mensongères. Le Comité national de gestion des épidémies saisira le procureur de la République pour la prise en charge judiciaire de tels faits considérés comme une entrave à la riposte nationale contre le COVID-19.
Outre l'interdiction de rassemblement dans les lieux clos ou ouverts, le chef de l'État a entre autres annoncé la fermeture des crèches, écoles et universités pour 3 semaines, l'interdiction des bateaux de croisière, le renforcement des contrôles aux frontières et des moyens sanitaires, l'acquisition de matériels médicaux spécifiques, le déploiement d'hôpitaux mobiles par l'armée et l'annulation de la célébration de la fête de l'indépendance. Le président Sall a aussi exprimé sa solidarité aux Sénégalais de la diaspora tout en leur demandant de respecter les mesures sanitaires en vigueur. À Dakar, Seydina Bagay pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Malgré l'annulation de la plupart des événements politiques en Amérique en raison du coronavirus, 4 États organisent des primaires mardi qui pourraient pratiquement éliminer tout doute quant au candidat démocrate qui affrontera le président Donald Trump en novembre. Comme le rapporte Kane Farabo de VOA à Chicago, l'ancien vice-président Joe Biden devrait renforcer son avance sur le sénateur du Vermont, Bernie Sanders, lors des votes en Floride, Ohio, Illinois et Arizona. Le récit est de Salwa Jafari.
Par un après-midi ensoleillé de mars, Bernie Sanders a profité du soutien apparent de milliers de supporters réunis au Grand Park de Chicago.
Merci Chicago, je ne vois même pas où cette foule se termine, vous êtes si nombreux.
À cause du Covid-19, il s'agit là peut-être du dernier rassemblement public de Sanders. Une série de pertes aux primaires a meurtri sa campagne, mais n'a pas sapé l'enthousiasme de la foule. Sabrina Honak est infirmière.
Je me sens très bien avec le taux de participation ici aujourd'hui.
Mais la participation aux urnes a favorisé Biden récemment. Déjà, l'ancien vice-président tente de rallier les partisans de son adversaire.
Et je tiens à remercier Bernie Sanders et ses partisans pour leur énergie inlassable et leur passion. Nous partageons un objectif commun et ensemble, nous vaincrons Donald Trump.
Mais Sanders n'a pas abandonné.
Et si nous voulons battre Trump, nous avons besoin de la plus grande participation électorale de l'histoire de l'Amérique. Et cette participation me semble évidente à Grant Park aujourd'hui.
Les sondages montrent que Sanders est le grand favori des électeurs âgés de 18 à 29 ans. Mais les jeunes ont tendance à ne pas se présenter en grand nombre dans les bureaux de vote.
Je pense que l'apathie a beaucoup à voir avec le vote. Beaucoup de jeunes pensent que rien ne fera une différence.
Julie Weber est professeure à l'Illinois State University.
En 2018, les gens ont été surpris. Je pense qu'1 jeune sur 5 à l'échelle nationale a voté, ce qui était sans précédent. Mais jusqu'à présent, le camp de Sanders a été assez déçu par le taux de participation des jeunes.
Les données des sondages montrent également que de nombreux électeurs considèrent que Biden est mieux placé pour vaincre Donald Trump, ce que de nombreux démocrates privilégient par rapport à des positions politiques spécifiques sur des questions telles que la réforme des soins de la santé et le fait de rendre l'université abordable. Certains partisans de Sanders reconnaissent que les statistiques favorisent fortement Biden. Mike Camp Lacin est supporter de Sanders.
Voilà pour ce journal, c'est la fin de cette édition. La technique, c'était Georges Léonard Sagno. À la présentation, Nathalie Barge et Michel Joseph. Grand merci d'avoir suivi cette édition. Encore toutes nos excuses pour les problèmes techniques. Restez avec nous pour la suite des programmes, notamment avec un rappel des titres de l'actualité avec Henri Francisque.
VOA Afrique.